VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Conakry, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal Crise au Burundi. Le général Godefroy Nyombaré, un haut gradé de l'armée burundaise, annonce un coup d'État. Il a déclaré à la radio avoir destitué le président Pierre Nkurunziza, dont la candidature à un troisième mandat lors de l'élection du mois prochain provoque depuis près de 3 semaines une crise politique dans le pays. Le président Nkurunziza est absent du Burundi. Il se trouve en ce moment en Tanzanie, à Dar es Salaam, pour un sommet des dirigeants est-africains pour débattre justement de la crise dans son pays. Plus de détails dans notre prochain bulletin, dans une heure. Le reste de l'actualité maintenant. En RDC, inquiétude sur le sort de Mathieu Ngudjolo, premier inculpé à être acquitté par la Cour pénale internationale et rapatrié hier à Kinshasa après le rejet par le gouvernement néerlandais de sa demande d'asile aux Pays-Bas parce qu'il craignait de faire l'objet de poursuites dans son pays. Ses proches disent ne pas savoir où il se trouve depuis son retour à Kinshasa. Human Rights Watch suit de près le dossier du leader du Front nationaliste et intégrationniste FNI. Des précisions avec Aïda Sawyer, chercheuse principale de cette organisation de défense des droits humains basée à New York, au micro d'Eddie Isango.
On a parlé avec lui et avec les services de sécurité et son avocat. Il est à un hôtel ici à Kinshasa et selon les informations, il est en sécurité. Nous espérons que les autorités congolaises vont garantir sa sécurité et on va suivre de près la situation ainsi que d'autres observateurs.
Aïda Sawyer était en ligne avec Eddie Isango. Afrique de l'Ouest maintenant, Charles Blé Goudé, un proche de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, emprisonné comme lui à la Cour pénale internationale de La Haye, porte plainte devant la justice ivoirienne pour séquestration et violence pendant sa détention en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes pro-Gbagbo, affirme avoir subi des sévices durant les 14 mois qui ont suivi son arrestation au Ghana. Plus de détails avec son avocat à Abidjan, Maître Serge Bougnon.
Il s'agit en fait des tortures qu'avait subies à l'époque M. Blé Goudé lorsqu'il avait été transféré du Ghana en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez qu'il a passé 14 mois de torture entre les mains de certaines personnes. Et à cette époque, on ne pouvait pas porter plainte parce qu'il était en Côte d'Ivoire, c'était beaucoup plus difficile. Et c'est maintenant qu'avec l'accord de notre client, on a décidé de déposer une plainte pour séquestration et torture entre les mains le directeur de la DST, le sous-directeur plus un autre agent. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a eu beaucoup de tortures. Je vous dis juste qu'il a subi effectivement un ensemble de tortures qui a même abouti à une audition. Et on a brandi un procès verbal d'audition qu'il aurait signé.
Maître Serge Bougnon, joint par Nicolas Pinault. Au Nigeria, les succès des forces armées contre les islamistes de Boko Haram dans le nord-est du pays n'ont pas été sans dommages collatéraux. Résultat, les personnes déplacées par les violences se retrouvent souvent complètement dépourvues de tout quand ils rentrent dans leur foyer après des années d'exode. Félix Yepassis, Zembrou.
Omar Luka est rentré chez lui à Michika, où il a trouvé sa concession remplie de cadavres. Comme la plupart des habitants, il avait fui cette localité lorsque Boko Haram y a pris pied en septembre. Il constate maintenant que les insurgés l'ont transformé en un cimetière.
Quand nous sommes revenus, nous avons découvert que la maison a été détruite. Toutes nos possessions avaient été déplacées et nous ne pouvions pas rester ici parce qu'il se dégageait une telle puanteur de la maison. Nous avons donc cherché à savoir l'origine de cette odeur. Et à l'arrière-cour, l'on a découvert une fosse où des combattants ont été enterrés en masse.
Michika fait partie des nombreuses localités du Nigeria dont les militaires avaient perdu le contrôle l'an dernier à la suite des attaques de Boko Haram dans le nord-est du pays. Michika a été reprise en janvier après que les militaires, aidés par les troupes régionales et des mercenaires étrangers, eurent repoussé les insurgés. Des dizaines de villes et villages dans le nord-est du Nigeria ont subi autant de dommages que Michika ou peut-être vécu pire. Un nouveau gouvernement va s'installer à Abuja à la fin du mois. Ici, les gens espèrent fortement que la nouvelle administration va faire ce qui est nécessaire pour les aider à reconstruire leur vie.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise en Libye, alors que la communauté internationale débat des moyens de secourir les migrants qui tentent la traversée périlleuse de la Méditerranée vers l'Europe, souvent à partir des côtes libyennes, la Libye met en garde contre l'envoi sans permission de navires étrangers dans ses eaux territoriales. Timothée Donangmaï nous en dit plus.
Dans un communiqué publié sur Facebook et que cite l'AFP, le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale prévient que les bateaux étrangers ne peuvent pas entrer dans les eaux territoriales du pays sans coordination préalable avec les autorités compétentes. En l'absence d'un tel feu vert, il s'agirait d'une atteinte à la souveraineté de l'État libyen, précise le communiqué. Dimanche, l'aviation de ce gouvernement a bombardé un cargo turc, tuant un marin à bord. Un député libyen a affirmé que le bateau tentait de pénétrer de force dans les eaux libyennes. Selon lui, des bateaux ont pénétré dans ces eaux par le passé pour soutenir les groupes terroristes en leur fournissant des armes et des munitions. Pour sa part, le gouvernement libyen, non reconnu par la communauté internationale, a déploré ce qu'il estime être une agression violente contre le navire turc qui, a-t-il dit, se trouvait dans les eaux internationales au moment de l'attaque.
La Commission de l'Union européenne devrait présenter aujourd'hui sa nouvelle stratégie pour l'immigration. Une annonce qui survient plus tôt que prévu en raison des naufrages et autres drames en Méditerranée cette année qui ont coûté la vie à de nombreux candidats à l'immigration en Europe. Saloua Jafari.
La Commission de l'UE devrait dévoiler un plan qui va appeler à partager, à travers un système de quotas, le nombre de migrants légaux dans le bloc européen afin d'alléger le fardeau des États du sud de la région, notamment l'Italie. Les grandes lignes du projet sont connues, d'autant qu'elles ont été ébauchées devant le Parlement européen. Il entend conforter le rôle de l'Agence de surveillance des frontières, Frontex, amplifier la lutte contre les passeurs, renforcer le système de protection pour les réfugiés, accélérer le retour des illégaux et ouvrir le dossier de la migration économique. Le texte pourrait préciser dès lors que la migration légale serait possible pour des personnes dotées de compétences recherchées en Europe afin de pallier certaines pénuries de main-d'œuvre, quitte sur ce point à prendre le contre-pied d'une partie des membres de la Commission. Écoutez sur ce point le plaidoyer de Federica Mogherini, haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Finalement, l'Union européenne se rend compte qu'elle doit prendre plus de responsabilités de manière très active et rapide. Il faut qu'il y ait un même niveau de prise de conscience de la nécessité de travailler ensemble à l'échelle mondiale, notamment par le Conseil de sécurité, par le système des Nations Unies et au niveau national. Les chefs d'État n'ont jusqu'ici pu se mettre d'accord sur un projet qui pourrait prendre en compte le taux de chômage, le nombre d'habitants et le nombre de réfugiés dans un pays pour fixer le nombre de personnes qu'ils devraient accueillir.
Actualité aux États-Unis, le président Barack Obama exhorte les Américains à se mobiliser davantage pour lutter contre la pauvreté dans leur pays. Des précisions avec Félix Yepassis Zembrou.
S'exprimant à l'occasion d'une conférence sur la pauvreté à l'université de Georgetown, ici à Washington, le chef de l'exécutif américain a élargi le débat. Il n'y a aucune raison que l'une des nations les plus prospères au monde ne puisse pas faire davantage pour renforcer l'égalité, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays a une question fondamentale.
What portion of our collective wealth and budget are we willing to invest?
Quelle part de notre richesse collective et du budget sommes-nous prêts à investir dans ce qui peut permettre à un enfant pauvre d'une ville rurale ou dans les Appalaches ou dans les centres-villes d'accéder à ce dont il a besoin, qu'il s'agisse de conseillers, de réseaux sociaux ou de livres et ordinateurs décents, et ainsi de suite. Bref, ce qu'il lui faut pour réussir. Pour le président américain, personne ne veut être pauvre. Mais les gens naissent souvent dans la pauvreté. Réduire la pauvreté nécessite de la volonté politique et des investissements du gouvernement, a-t-il souligné.
Et pour terminer, première visite officielle d'un président français en Haïti depuis l'indépendance du pays en 1804. François Hollande a promis d'aider la République antillaise à se relever du tremblement de terre de 2010 qui a laissé une grande partie de la capitale Port-au-Prince en ruine. Durant son escale en Guadeloupe au début de la semaine, le président français a reconnu que la France avait une dette à l'égard d'Haïti, principalement à cause des énormes compensations estimées à 19 milliards de dollars que les Haïtiens ont dû payer au gouvernement français au 19e siècle pour obtenir la reconnaissance de leur indépendance. Mais les officiels français ont précisé par la suite qu'il s'agissait d'une dette morale, non pas financière.
Soyez au cœur de l'info.